J'ai une question bien intéressante pour vous. Est-ce que Joseph était le père naturel du Seigneur Jésus? La parole de Dieu va nous enseigner toute la vérité à ce sujet, aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. J'ai encore de bonnes questions pour vous aujourd'hui. Je ne serais pas surprise qu'elles soient aussi vos questions. Les voici. Dieu nous appelle-t-il réellement à la repentance? De quelle manière est-ce que la généalogie de Marie démontre l'humanité de Christ? Est-ce que Joseph était le père naturel de Jésus? Comment l'homme et la femme peuvent-ils rétablir leur relation avec Dieu? Où pouvons-nous trouver la force de résister à la tentation? Est-ce que Jésus a fait face à la tentation? Est-ce que Satan est une personne? Que signifie le mot « tenter »? La Bible enseigne-t-elle que Jésus n'a jamais péché? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a fait ses recherches dans la Bible. Il est prêt à nous dire tout ce que la parole de Dieu dit en réponse à nos questions. Demandons à Dieu de toucher nos cœurs par cet enseignement. Prions. Ô Seigneur, oui, on désire que tu touches nos cœurs par ton enseignement aujourd'hui. On désire que tu transformes nos vies. Ta parole est toute puissante. Transforme-nous à travers elle. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, lorsque nous nous sommes laissés au verset 8 du 3e chapitre de l'Évangile selon Luc, Jean-Baptiste exerce son ministère public. Il appelle le peuple de Dieu à la repentance. Débutons notre lecture. L'Évangile selon Luc, chapitre 3, verset 9. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. À cette époque, un arbre qui ne portait pas de fruits était inutile, et on en faisait du bois pour la cuisson. Jean le Baptiste, n'a jamais parlé de l'amour rédempteur de Dieu. Il fut plutôt appelé à avertir le peuple au sujet d'un jugement imminent. Cependant, l'appel à la repentance est aussi un élément du message que Dieu nous demande de transmettre aujourd'hui. La nation d'Israël n'a pas produit de fruits spirituels, et elle devra faire face à un jugement. Jésus donne le même avertissement à son Église. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Versets 10 et 11. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ? » Il leur répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Jean reproche clairement aux gens de ne vivre que pour eux-mêmes et de ne pas partager leurs biens avec leurs prochains. Versets 12 et 13. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Les publicains étaient des collecteurs d'impôts reconnus pour leur avarice. Cependant, ils sont venus à Jean et se sont tournés vers le Seigneur plus tard. Verset 14. Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Jean donne des réponses pratiques aux gens de toutes les couches sociales qui viennent le voir. qu'importe notre métier, ouvrier, enseignant, marchand, médecin, notre manière de l'exercer ainsi que l'attitude avec laquelle nous le faisons démontre notre christianisme. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, nous précise l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 20. Revenons à notre texte de l'Évangile selon Luc, chapitre 3, et cette fois lisons ensemble les versets 15 à 17. Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Jean indique clairement qu'un autre viendra après lui. Jean a baptisé d'eau, Christ baptise du Saint-Esprit. Et cela depuis 2000 ans, et à son deuxième retour, il baptisera de feu. Le feu est un symbole de jugement. Versets 18 à 20. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode, le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean dans la prison. Hérodias n'a jamais pardonné à Jean d'avoir dénoncé son péché ainsi que celui d'Hérode. Jean se retrouva en prison. Plus tard, il sera décapité à la demande d'Hérodias. Versets 21 et 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Oui, chers amis, la Trinité se manifeste dans ce passage. Vous avez le Saint-Esprit qui descend sur Jésus, qui fait partie de la Trinité, et le Père se fait entendre du ciel. Le reste de ce chapitre traite de la généalogie de Marie, et non celle de Joseph. Matthieu nous a donné la généalogie de Joseph dans son Évangile. La généalogie de Matthieu débute avec Abraham et se rend jusqu'à Jésus en passant par David et Salomon. Le droit au trône passait par Joseph. La généalogie de Luc est différente. L'ordre de celle-ci est l'inverse de Matthieu. Luc descend jusqu'à Adam en passant par le roi David. Luc raconte l'histoire de Marie. Et nous avons ici sa généalogie. Le sang royal de David coulait dans ses veines. Par Marie, Jésus, en plus d'un droit légal, avait un droit au trône de par sa naissance. Nous devons noter deux choses au sujet de cette généalogie. Luc indique clairement que Joseph n'était pas le père naturel de Jésus. Verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Le mot « fils » ne se trouve pas dans les meilleurs manuscrits. Joseph n'était pas le fils d'Élie. Le mot « fils » a été ajouté pour indiquer la lignée à travers l'homme, qui était le chef de famille. Autrement dit, les généalogies étaient rédigées selon la lignée masculine. Dans l'Évangile selon Matthieu, qui nous donne la généalogie de Joseph, c'est Jacob qui engendra Joseph. Nous ne lirons pas toute la généalogie, mais un autre détail important à noter se trouve au verset 31. Fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David. L'évangéliste Matthieu retrace les ancêtres de Christ en passant par le roi Salomon, fils de David. Il suit la lignée royale. Tandis que Luc trace la lignée de Christ à travers Nathan, un autre fils de David. Le sang de David coulait dans les veines de Marie. Jésus-Christ est le fils de David. Luc présente Jésus-Christ comme étant le Fils de l'homme et le Sauveur du monde. Sa lignée ne s'arrête pas à Abraham, mais remonte jusqu'à Adam qui fut le premier fils de Dieu. Cependant, il fut déchu au moment où il pécha. Jésus-Christ, le dernier Adam, est Fils de Dieu, est venu afin de ramener les humains à une relation intime avec Dieu. Cette relation intime qu'Adam a perdu. Cette relation se rétablit par la foi en Jésus-Christ seul. Je vous invite à lire le reste de la généalogie de Luc par vous-même et de la comparer à celle de Matthieu qui se trouve au premier chapitre de son évangile. Maintenant, chers amis, nous passons à la tentation de Jésus, c'est-à-dire au chapitre 4 de l'évangile selon Luc. Lisons les deux premiers versets. Luc chapitre 4, versets 1 et 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Nous avons ici davantage une épreuve que Christ doit passer plutôt qu'une véritable tentation. Matthieu, Marc et Luc relatent cet épisode, mais pas l'apôtre Jean qui nous présente Jésus comme étant le Fils de Dieu et qui met l'accent sur sa divinité. Les autres évangélistes s'arrêtent davantage sur son humanité. Comme homme, Jésus fut tenté. La généalogie du chapitre précédent dit « Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. » Le verset 38 de Luc chapitre 3. La généalogie de Marie retrace les ancêtres de Jésus jusqu'à Adam. Étant fils d'Adam, Jésus fait partie de la race humaine. Il fut tenté comme nous tous, mais il ne pécha point. Des ténèbres profondes et épeurantes entourent la tentation de Jésus qui demeure mystérieuse jusqu'à un certain point. Jésus était entouré de forces diaboliques invisibles. Il était entouré de la puissance des ténèbres et de la destruction. Il a fait face au même problème que toute l'humanité et il a acquis une victoire pour vous et pour moi. Nous devons tenir compte de certains éléments en examinant la mise à l'épreuve de Jésus. Le texte nous dit que Jésus était rempli de l'Esprit. Comme homme, le Fils de Dieu avait besoin de l'Esprit pour faire face à la tentation. Mes amis, nous ne pouvons pas tenir contre les tentations du monde sans l'aide de l'Esprit de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 21, l'apôtre Paul nous dit « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. N'est-ce pas l'expérience que nous vivons tous ?» Paul continue « Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Romains chapitre 8, versets 3 et 4. Et dans la lettre de Paul, adressée aux Galates, chapitre 5, verset 16, Paul conseille, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Chers amis, nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans Deutéronome, chapitre 8, verset 2, Dieu a dit aux Israélites, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Autrement dit, Dieu a mis les Israélites à l'épreuve. Dieu ne tente jamais personne au mal. Le texte nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Jésus-Christ n'a pas cherché à être tenté. Même au mont des Oliviers, il a prié en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Luc chapitre 22, verset 42. Jésus fut mis à l'épreuve pendant les 40 jours qu'il fut dans le désert. Il ne fut pas tenté seulement à la faim. Luc nous dit simplement qu'il avait faim au bout de 40 jours de jeûne. De plus, Satan a encore tenté Jésus pendant son ministère public. Satan a fait un ultime effort au jardin de Gethsémané. D'ailleurs, nous lisons au verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Nous devons aussi nous rendre compte que Satan est une personne. Un nombre important de prédicateurs enseignent le contraire, mais le texte biblique ne laisse aucun doute. Satan est une personne. Satan a-t-il pris une forme humaine? Avait-il la forme d'un esprit ou d'un ange? Quoi qu'il en soit, la Bible nous relate un face-à-face entre le Seigneur et Satan. Satan est subtil. Parfois il est un lion rugissant qui cherche qui il dévorera. Parfois il se déguise en ange de lumière, et s'il était possible, il séduirait même les élus. Le mot « tenter » peut signifier « inciter à faire le mal » ou « séduire ». Si une personne est séduite, c'est qu'il y a quelque chose en elle qui l'a attirée. Ce ne serait pas une tentation si la personne ne pouvait pas y céder. Cependant, ce n'était pas le cas de Christ qui a dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi ». Évangile selon Jean chapitre 14, verset 30. « Je ne sais pas ce qui est de vous, mes amis, mais lorsque Satan me tente, il trouve toujours un endroit où entrer. » Le Seigneur était saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. La tentation de Christ ne fut pas une incitation à faire le mal. Le mot « tenter » peut signifier « mettre à l'épreuve ». Dieu mit Abraham à l'épreuve en lui demandant de sacrifier son fils Isaac. Le peuple fut aussi mis à l'épreuve en passant 40 ans dans le désert. Est-ce que Christ aurait pu céder et commettre un péché? La réponse est non. Cependant, sa mise à l'épreuve a démontré qu'il était qualifié pour être l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La tentation nous démontre que notre Sauveur était saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et capable de sauver tous ceux qui viendraient à lui. Jésus-Christ fut tenté physiquement, psychologiquement et spirituellement. Revenons à notre texte de l'Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 3. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Le diable ne demanda pas à Jésus de commettre un crime. Le pain est une nourriture, donc il est nécessaire à la vie. À certaines occasions, Jésus a nourri des foules de 5 000 hommes et de 4 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ève regarda le fruit dans l'arbre et vit qu'il était bon, puis en mangea. L'apôtre Jean a appelé cela de la convoitise, celle de la chair, dans son épître 1 Jean chapitre 2 verset 16. Pour vivre, un homme doit manger. C'est la philosophie de la plupart des gens aujourd'hui. La foule crie pour avoir du pain, de la boisson et des vêtements. Les gens sont matérialistes. Ils sont prêts à faire des transactions malhonnêtes, voler, jouer à l'argent, vendre des produits illégaux afin d'acheter des choses pour leur confort. des femmes vont se prostituer pour un manteau de fourrure, pour des vêtements qui portent la griffe d'un grand couturier, et pour des bijoux. Satan a démontré le peu de valeur qu'il attache à l'humanité lorsqu'il a dit à Dieu : « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. » Job, chapitre 2, verset 4. Ce n'était pas vrai, car Job a passé sa mise à l'épreuve. Le Seigneur a utilisé l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu pour répondre à Satan. Lisons le verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Puis ce fut la tentation psychologique, versets 5 à 8. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Ici, Satan fait appel à ce que Jean a appelé la convoitise des yeux. Dans le paradis terrestre, Ève a regardé le fruit défendu, et elle a vu qu'il est agréable à la vue. Satan conduit Christ sur un lieu élevé, il lui a montré tous les royaumes de la terre et les lui a offerts. Ces royaumes comprenaient le puissant empire romain. Mais Christ, qui était en route pour le trône, a choisi de s'y rendre par le chemin de la croix. Satan voulait que Jésus évite de passer par la croix. L'apôtre Paul a écrit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Prendre le chemin de la souffrance alors que Satan offre puissance et richesse semble de la folie. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui peut vous étonner. Essayer de construire un royaume sur terre sans Christ est une œuvre satanique. Il n'y a que deux maîtres, le Seigneur Jésus et Satan. Si vous ne servez pas Jésus-Christ, alors vous servez l'autre maître. L'apôtre Paul a dit, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Finalement, le Seigneur fut mis à l'épreuve dans le domaine spirituel. Les versets 9 à 13. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Pourquoi Jésus fut-il soumis à une épreuve si difficile? Simplement afin de démontrer que vous et moi avons un Sauveur sans péché. Oui, chers amis, Jésus est le seul qui est capable de nous sauver. Chers amis, prochaine émission, Luc 4, versets 14 à 43.
Merci, Régent. Eh bien, Christ est venu sur cette terre pour rétablir notre relation avec Dieu. Je suis toujours épatée de voir combien Dieu aime sa créature. Il est évident que si Dieu veut rétablir notre relation avec lui, c'est que nous, on s'est éloignés de lui. Et bien sûr, c'est le péché qui nous éloigne de ce Dieu saint. Mais il nous a donné le moyen de revenir à lui, et ce moyen, c'est son Fils Jésus, celui qui est venu sur cette terre, celui qui n'a jamais péché, bien qu'il ait été tenté de bien des manières et à plusieurs reprises, celui qui a souffert et qui est mort sur la croix pour payer la dette de nos péchés, pour la payer en entier. Bien que Jésus soit Dieu, il était dans un corps de chair comme le nôtre, puis il a été tenté comme nous le sommes, sauf que lui n'a jamais succombé à la tentation. C'est pourquoi il était l'agneau sans défaut qui pouvait être immolé à notre place, pour prendre notre châtiment sur lui. Il a été le sacrifice parfait que Dieu le Père a accepté pour le pardon de nos péchés. Oh, merci Seigneur! J'ai bien aimé les versets que Jean a cités dans la première épître de Jean, au chapitre 2, versets 1 et 2. J'ai bien envie de vous les répéter. C'est tellement encourageant. Il a dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » C'est pas rassurant, ça, de savoir qu'on peut compter sur Jésus, quelles que soient nos circonstances. Mais pour qu'il soit notre avocat, pour qu'il puisse plaider notre cause devant le Père, il faut premièrement qu'il devienne notre sauveur. Mon ami, Jésus est-il ton sauveur? Est-il ton Seigneur? Je ne peux pas répondre à ta place. Mais toi, tu sais si tu as pris la décision de recevoir le pardon de Dieu pour tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Si c'est pas encore fait, il est temps aujourd'hui même de te repentir, de te détourner du chemin du péché pour emprunter le chemin qui mène au ciel, au royaume de Dieu, où tu pourras vivre éternellement dans la présence du Seigneur. En ce moment, demande à Jésus de te sauver. Demande-lui le don gratuit de la vie éternelle. Il veut te le donner. Reconnais que tu ne peux pas te sauver toi-même, que tu as besoin de son sacrifice à la croix pour le pardon de tes péchés. Invite Jésus à entrer dans ton cœur. Dis-lui, je t'accepte comme sauveur, comme maître de ma vie. Dis-lui, sauve-moi, Seigneur. Il va le faire. Il est fidèle et juste pour pardonner à tous les pécheurs repentants. Repens-toi et accepte Jésus pour ton sauveur. En ce moment, tu ne sais pas si tu vas vivre demain. Tu as besoin de lui maintenant. Tu as besoin de cette assurance que quand tu vas mourir un jour, tu vas aller au ciel, tu vas être dans la présence de celui qui t'aime comme personne.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels, ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Bonne fin de semaine et à lundi.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.